Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 33 d'aujourd'hui a pour titre générique Cancer au pluriel. D'abord, dans l'actualité économique générale, écho 1. Voilà une victoire à la Pyrrhus de ADS qui vient avec 12 milliards d'euros engloutis dans le naufrage industriel du programme A380 depuis 2006 de réussir à vendre 32 avions sur papier. La rentabilité du programme n'est pas pour demain puisque la fabrication de chaque avion continue de creuser le déficit. De plus, EADS vient, au prix d'un effort énorme, de réussir à en livrer deux en mai 2010. Le pari, ajoute encore Louis Gallois, consiste à réduire nos coûts de fabrication, ce qui fait que voilà un avion qui rapporte beaucoup d'argent aux compagnies aériennes, mais qui en coûte à l'avionneur. L'augmentation de la cadence de production d'A380 à 2, puis 3 avions par mois, devrait également concourir à rejoindre le point de profitabilité vers 2015. Peut-être. Si toutefois les commandes reprennent à partir de 2011. Bref, voilà une vente miraculeuse à perte pour le constructeur européen. Mais il y a encore plus grave. Emirates, qui vient de passer cette commande, et la compagnie de Dubaï, un État que l'on disait en faillite l'année dernière. Elle attaque les compagnies européennes sur leurs lignes les plus rentables, avec des coûts internes de 30% inférieurs au total, selon une étude de Arthur D. Little de 2007. Sortie du sable depuis à peine 25 ans, Emirates détient déjà plus de sièges sur les liaisons intercontinentales qu'Air France et British Airways réunies, vient de réagir mardi 8 juin 2010 le patron de la Lufthansa, Wolfgang Mayrhuber. Le poteau rose se révèle dans le fait que la compagnie de Dubaï peut compter sur un soutien à l'export des pays d'Airbus comme de ceux de Boeing, tandis que nos compagnies européennes n'en ont pas. Air France KLM, Lufthansa et British Airways sont attaqués à l'intérieur par des compagnies low cost, financées souvent par des capitaux étrangers, dont beaucoup islamiques, et de l'extérieur par les compagnies de ces mêmes pays islamiques. L'Europe se prive donc, pour accroître la saignée par les coûts de production d'avions, connus pour être rentables seulement pour les clients, lesquels se servent de cette rentabilité pour saigner les chiffres d'affaires de nos compagnies aériennes qui s'acheminent vers une faillite aussi retentissante que celle de ADS, dont le projet A380 constitue le bouillon historique. Le cancer islamique ronge ainsi l'Europe économique aérienne. Dans l'actualité économique financière, écho 2. Marie-Georges Buffet, secrétaire générale du PCF, vient de déclarer lundi 14 juin 2010 que les entreprises avaient besoin de plus de crédits. Je m'inscris en faux sur cette affirmation macro-quantitative. Les entreprises ont diminué leur demande globale de crédit depuis fin 2008 et courant 2009 au bénéfice d'un recours plus important à l'augmentation de leurs fonds propres, tandis que l'offre de crédit n'a elle-même pas cessé d'augmenter, au contraire des craintes agitées par la propagande pour accréditer une crise économique qui n'existait pas. Ce que veulent Marie-Georges Buffet et le Parti communiste français, c'est continuer à asservir les entreprises au crédit bancaire afin de les saigner à blanc au bénéfice du système totalitaire mis en place depuis 1946 sous le paravent gaulliste et accentué démesurément en 1981. Je voudrais rappeler ici brièvement que la structure du passif du bilan d'une entreprise a une grande importance et un impact dur sur la valeur ajoutée qu'elle peut tirer du secteur du marché sur lequel elle vend ses produits. Du haut du passif, avec le capital, les réserves, les dettes à long terme, jusqu'au bas du passif avec les dettes à court terme, le crédit fournisseur, l'exigible, l'importance relative de ces différentes masses dans le total du passif est cruciale. Si une entreprise n'a que du capital à son passif, elle est indépendante et elle conserve son bénéfice qu'elle peut affecter en dividendes, en participation de ses employés, en réserve et en provision. Si par contre une entreprise n'a que des dettes à long, moyen et court terme et un capital de 1 euro symbolique, je pousse exprès le curseur, on voit clairement qu'elle se vide de son bénéfice vers ses créanciers, lesquels peuvent la mettre à mort n'importe quel jour après l'avoir saignée à blanc le plus longtemps possible. Entre les deux situations extrêmes, toutes les réalités proportionnelles se vivent tous les jours. Mais on voit bien que plus une entreprise a de fonds propres et moins de dettes, plus elle est indépendante, forte et peut donc espérer durer. Les ennemis totalitaires de la liberté expriment donc à chaque fois le point de vue inverse et recherchent la dépendance des entreprises à leurs lois et le profit volé aux travailleurs asservis via les entreprises saignées par le système. Une entreprise qui incorpore des réserves préalablement constituées sur ses profits à son capital par attribution d'actions gratuites conforte son indépendance vis-à-vis des tiers et enrichit ses actionnaires. C'est par exemple le cas d'Air Liquide. Une entreprise qui souhaite augmenter son capital à titre onéreux afin d'économiser le recours au crédit bancaire procède à une offre de souscription d'actions nouvelles. C'est par exemple le cas de Morel et Prom. Après s'être tournée d'abord vers ses actionnaires anciens, elle peut chercher à en trouver de nouveaux. C'est alors sur le marché primaire des capitaux, dont je vous ai parlé la dernière fois, que les entreprises peuvent trouver les fonds propres dont elles ont besoin en émettant donc des titres neufs, entre guillemets, mais enfin c'est vrai, actions et obligations. Dans ce dernier cas, elles entrent alors en concurrence avec l'État et ses collectivités locales. Je vais d'abord vous rappeler la situation de ce marché avant l'euro, en 1997, et ensuite vous dire ce qu'il en est advenu de 2008 à 2010, 11 ans et demi plus tard. Cela va vous éclairer pleinement. Tout d'abord, voici ce que je constatais au profit de mes lecteurs du mensuel Le Pétrin en décembre 1998, sous mon pseudonyme de Junot Moneta. En 1997, toutes devises confondues, l'État français a ponctionné sur les marchés financiers primaires 145,2 milliards de francs sur un total général net des remboursements de 209,2 milliards, soit 69,41%. La même année, les non-résidents ont emprunté net sur le marché national des capitaux 118,6 milliards de francs, ce qui fait que les deux ponctions amène à 126% de l'offre nette. Cela ne fut possible que grâce au remboursement très important opéré par les établissements de crédit, 167,7 milliards de francs, qui n'ont emprunté eux-mêmes que modérément, 96,1 milliards de francs, laissant donc à la disposition de l'État et des non-résidents la différence de 71,6 milliards de francs nets. La tendance à l'endettement s'accentue au 30 juin 1998, où l'on apprend qu'ont été prélevés 155,6 milliards de francs, soit déjà la moitié de 97, alors que n'ont été remboursés que 71,5 milliards de francs, soit seulement 39% des remboursements de 97. Seul point favorable à ce moment, on note un effort de remboursement des emprunts en écus plus grand qu'en 97, de 43,7 milliards d'écus nets. Les sociétés non financières ont, quant à elles, c'est-à-dire les entreprises, emprunté 53 et remboursé 47,7, donc ont emprunté net 5,3 milliards de francs, soit à peine plus de 2% du marché des capitaux offerts. Quant aux autres emprunteurs, les ménages par exemple, on leur laisse par pitié sans doute à peine 7% de l'offre potentielle du marché pour survivre. C'est normal puisque ce sont eux qui doivent tout payer. Ces chiffres illustrent la situation d'une société française hyper collectivisée, où la société civile, entre guillemets, périphrase habituelle des énarques, fonctionnaires et politiciens, est écrasée par le mastodonte étatique. lequel désertifie l'économie libre par l'écrasement de l'initiative privée sous le poids et la force de ses choix, évidemment toujours dirigés vers le gigantisme, selon l'adage anglo-saxon « The big is beautiful », dans le cadre et avec le moyen de la planification économique collectiviste, la fameuse ténébreuse alliance. Historique. Il faut rétablir en faveur des agences économiques privées le flux des capitaux et pour ce faire, il est impératif que l'État réduise drastiquement ses dépenses pour pomper moins et si possible rien du tout sur le marché primaire. C'est là que la démocratie doit reprendre les rênes des mains des technocrates en imposant aux politiciens des choix en faveur de la liberté d'entreprendre, donc de trouver les fonds propres nécessaires pour gagner de l'argent afin de former du capital nouveau, susceptible d'enclencher la réaction en chaîne favorable à l'économie privée, seule capable de créer des emplois productifs. Voilà ce que je disais donc en décembre 1998. Aujourd'hui, et pour la date du 31 mai 2010, le Statinfo de la Banque de France, membre et filiale de l'Eurosystème, contactable à l'adresse internet figurant sur la version papier de ma chronique, nous renseignait sur la situation actuelle. Les émissions de titres de dette des résidents français, en données brutes, cumulées sur 12 mois à fin avril 2010, se sont élevées, net des remboursements, à 185,8 milliards d'euros. Les sociétés non financières, SNF, autrement dit les entreprises, en ont obtenu 53,8 à long terme et remboursé moins 5 à court terme. Elles ont donc ponctionné 48,8 milliards d'euros net. Donc 26,26% du marché primaire des capitaux. Certes, c'est 10 fois ce qu'elles obtenaient en 1997, mais ce n'est encore que le quart de l'offre générale des capitaux sur le marché primaire. Les administrations publiques se goinfrent, elles, de 123,4 milliards d'euros, soit 66,42% du marché, à peine moins qu'en 1997, 69,41%, pratiquement pareil. Quel est le résultat actuel? Il est lisible dans l'encours général des titres de dette, actions, obligations, etc., qui est au total, cet encours total, de 2 996,7 milliards d'euros, dont seulement 366,4 milliards d'euros pour les sociétés non financières, c'est-à-dire les entreprises, soit 12,23%. Les administrations publiques représentent un encours de 1 298 milliards d'euros, soit 43,32%. Les institutions financières monétaires, c'est-à-dire les banques et assimilées, 1 126,1 milliards d'euros, soit 37,58%, et les institutions financières non monétaires, c'est-à-dire les établissements financiers, 206 milliards, soit 6,87%. Voilà le résultat en mai 2010, le mois dernier, le dernier mois connu, de décennies d'oppression étatique et para-étatique sur le marché des capitaux. Les mastodontes bancaires, émetteurs de la monnaie utilisée par tous, ont grossi jusqu'à représenter 80,90% de l'encours, soit laissant 6,87% seulement à la disposition des agents économiques, les ménages, et 12,23% aux fonds propres des entreprises productives de toutes les richesses nationales. Pire encore, au total de 366,4 milliards d'euros d'encours, il faut comparer les émissions d'actions, fonds propres par excellence, de 20,9 milliards d'euros seulement pour ces mêmes SNF et de 190,4 milliards d'euros pour les banques et les établissements de crédit. Ceci sur les 12 derniers mois. On voit bien que les entreprises, et pire encore les consommateurs finaux, sont laissés à la portion congrue et doivent, par leur travail, de plus en plus acharné et allongé dans le temps, alimenter la tumeur cancéreuse collectiviste devenue plus grosse que la société civile et ô combien, dont le revenu décroît. C'est bien l'esclavage. Pour couronner le tout, voici quelques-uns des commentaires de Natixis en janvier 2010, laquelle fait du crédit revolving renouvelable à 18% l'an tout compris à ses clients. le marché primaire du crédit 2010 démarre en fanfare. Nous nous attendons à une progression globale des émissions obligataires en 2010. Pourtant, il y aura diminution pour les sociétés non financières de 300 milliards en 2009 à 200 milliards seulement en 2010, soit moins 33,33% pour les entreprises, pour leurs fonds propres corporate. Qui va alors prendre le jackpot? Eh bien, c'est d'abord les USA, États-Unis d'Amérique, lesquels vont saigner les émissions obligataires de toute la zone euro de 2500 milliards d'euros à cause de leur déficit explosant sous l'effet de leur récession économique. La zone euro offrira cette année pourtant 118% des capitaux qu'elle offrait en 2009, donc une expansion de 18%. Mais pas pour les Européens, et encore moins pour les entreprises françaises. Le roulant n'est donc bien que le grenier à travail et à sous de l'oncle Sam, ce que l'on sait depuis 1944. Il y a quand même un point positif pour nos entreprises, tout petit point, c'est que l'écart de taux, les spreads, qu'elles devaient payer pour concurrencer l'État et les banques, un comble, s'est réduit du fait de la monstruosité des déficits publics qui assurent aux banques des revenus confortables qu'elles jugent suffisants pour l'instant. Mais les banques se servent largement, sans honte, du marché primaire. L'année 2010 a bien commencé pour BNP Paribas, BBVA et Dexia Communal Bank, avec une ponction déjà vite fait, là, dès le début de l'année, de 4,75 milliards d'euros. Outre l'augmentation des émissions d'État et des agences publiques, Natixis s'attend à une forte progression des émissions de dettes seniors des institutions financières, délaissées en 2009 au profit des émissions garanties par les États. Ben voyons. Qu'est-ce qu'on va laisser au SNF, aux entreprises réellement productives en 2010? La part du marché des obligations corporate, c'est-à-dire les fonds propres à long terme des entreprises, à haut rendement à payer, pour elles, par elles, qui devrait poursuivre une résurrection, entre guillemets, ça c'est Natixis qui parle, entamé fin 2009, il était fermé depuis 2008 et profitait ainsi des liquidités surabondantes, d'autant plus qu'elles sont inventées par les banques, qui cherchent de la performance, ben voyons, et qui devraient aussi se porter sur le marché des actions, sous ensemble du marché primaire des capitaux. Voilà la situation financière sur laquelle, en plus, surfent les traders des banques pour ripailler sur le dos de la malheureuse société civile qui n'en peut vraiment plus. Dire que je me suis épuisé personnellement à mettre entre les mains des électeurs un bulletin de vote que, conditionné à le prendre pour le diable par le maître de la confusion renversant les rôles grâce à la dialectique du Parti communiste, ils ont les laissés au profit des noms ronflants des totalitaires en piste. Voilà le cancer financier, contrepartie du cancer économique collectiviste, fils de la déraison politico-maçonnique, réfugié dans l'abstraction et maintenant dans l'escroquerie. Logique. Dans l'actualité économique monétaire éco 3, je serai très court parce que je viens d'être un peu long sur la partie financière, mais je pense que ça en valait le coup. Borsennews.deutsch site Internet, agissant en Allemagne, constatant que pour les Allemands, les difficultés de la zone euro représentent un grave souci, vient de décider de reprendre la cotation des titres en Allemagne en Deutschmark. Même un des défenseurs les plus acharnés de l'euro, comme Hans-Olaf Henkel, ancien chef du syndicat patronal allemand Bundesverbandes der Deutschen Industrie, s'exprimait pour l'arrêt de l'euro et la réintégration du Deutschmark, précisait encore Börsen-News. J'ai toujours dit, et ceci est en plus légal en France depuis 1979, que l'on pouvait toujours faire notre comptabilité en francs, échanger en francs, payer en francs, même si au dernier moment il fallait par décision autoritaire, arbitraire du gouvernement depuis 2002, publier la compta en euros. Rien n'empêche de faire comme les Allemands. Dès lors, l'euro se repliera dans un rôle obscur de monnaie de compte européenne, dernier avatar des unités de compte comme on en a connu beaucoup, par exemple l'Eurco, que plus personne ne se souvient, l'écu composite, l'écu concret, dont les gens se souviennent à peine. Chacun reprendrait alors sa monnaie, en France le franc, et l'unité de compte entre États serait l'euro à un pour un. Fin de l'euro maçonnique dans un asile réservé aux seuls illuminés par leur folie. Fin de l'abstraction délirante et retour au concret. Bravo les Allemands! Le cancer monétaire de l'euro doit être extirpé par la chirurgie démocratique mettant fin à la vivisection et à la haute chirurgie mentale de la propagande maçonnique, selon une expression ancienne d'un ancien ami. Voilà ce que j'ai voulu vous dire sur les cancers dans les trois domaines de l'économie qui nous rongent. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.